Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Être et parler français aux éditions Perrin avec Paul-Marie Couteau, notre invité, pour évoquer cette question qui est évidemment chère ici à l'Académie, cette question de la langue française, mais alors sous un angle qui n'est pas celui que l'on peut traiter habituellement, l'angle éventuellement géopolitique, la francophonie, des aspects plus politiques, peut-être plus annexes aussi d'ailleurs, puisqu'il faut peut-être se recentrer, Paul-Marie Couteau, bonjour.
Bonjour.
Se recentrer sur l'essentiel. Et cette idée que l'on peut développer, si vous le voulez bien. Alors, on reviendra bien sûr sur votre expérience du français et de la façon dont le français est confronté aux autres langues dans certaines institutions, je pense au Parlement européen, puisque vous êtes aussi député européen. Vous êtes directeur de l'Indépendance, c'est un mensuel que vous patronnez. Se recentrer sur l'essentiel, au-delà de l'expérience et de la façon dont le français est traité dans certaines institutions, sur l'idée de sacralité, est-ce qu'une langue, c'est déjà avant d'être un moyen de communication ? Est-ce qu'on touche à un aspect religieux dans la langue ?
Oui, je crois à double titre. Certes, il y a bien des aspects, ne les écartons pas trop définitivement, en tous les cas géopolitiques, bien entendu la francophonie. Il y a aussi la question de la langue dans le cadre européen, il y a la question de la concurrence des cosmogonies entre l'anglais et le français, ou l'américain et le français, les États-Unis et la France d'une certaine façon, qui se joue aussi sur la scène de la concurrence linguistique. Mais tout de même, ce qui est aussi important, on ne doit pas l'oublier, c'est la situation du français en France. Et elle n'est pas sans importance, évidemment, pour ses aspects géopolitiques, francophonie et autres, mais aussi pour l'idée même qu'il y ait une France. Je crois que la France est une nation, je suis heureux de le dire à l'Académie française, par excellence littéraire. On l'a dit politique, je la verrai aussi bien littéraire que politique. Et je crois même que, pour utiliser un bien grand mot, elle a finalement, au fil des siècles, été investie d'une sorte de sacralité toute particulière. Les écrivains, par exemple, ont une sorte de préséance. Le général de Gaulle disait « on ne met pas Voltaire en prison », comme si les écrivains étaient intouchables. On a l'impression qu'ils passent avant tous, et que celui, vous connaissez la fameuse phrase de Chateaubriand, la diatribe Chateaubriand contre Napoléon dans le Mercure de France, celui qui tient la plume, tient au bout de sa plume comme au bout de son épée, n'importe quel homme politique en retiendra, dit Chateaubriand, ce Candide acide plutôt que Néron tel qu'il fut, sous-entendu moi Chateaubriand plutôt que Napoléon tel qu'il fut. Et je crois que ce primat de la langue a plusieurs figures, notamment cette formule assez étonnante, on pourrait dire, qui consiste à appeler immortels les académiciens, comme si le simple fait d'être académicien doté d'une sorte de sainteté, enfin de, oui, l'immortalité dit bien cela, d'une place à part dans le Panthéon. Il y avait presque une petite concurrence, enfin même, non, il y a eu une concurrence,
entre on le verra
bien. Oui, on le verra bien à la Révolution française, entre la sacralité de la langue, qui est un des fondements de la France, et la religion chrétienne, qui était évidemment l'autre fondement.
Et cette sacralité remonte à une période antérieure, à la Révolution. C'est une sacralité. Peut-on la dater, ce moment où la langue française, 1539, ça serait la première date ?
On pourrait dire l'édit de Villers-Cotterêts, d'autant que, au fond, ce qui est principalement visé, ce ne sont pas tant les patois, c'est le latin, c'est la langue des clercs, c'est la langue des tribunaux.
L'Église aussi, hein ?
Oui, des clercs au sens des ecclésiastiques. Et finalement, ça s'inscrit tout à fait dans le gallicanisme français, qui passe précisément par le primat donné à la langue nationale sur le latin, qui est la langue d'Église. On pourrait même aller un petit peu plus loin. Charles V, par exemple, Nicolas Aurem, son ministre de la Culture, ont même théorisé l'utilité de la langue pour unifier le pays. Nicolas Aurem a cette phrase assez belle. Il ne saurait y avoir de sujet droit de France sans parlure commune. Et d'ailleurs, Charles V lui-même a utilisé la langue à des fins politiques dans son conflit avec Étienne Marcel. Je cite ce récit fait par Aurem lui-même. On voit Charles V aller haranguer la foule des Halles en français pour faire pièce à la sédition du prévôt des marchands, Étienne Marcel. Bref, il y a une utilisation politique de la langue, laïque de la langue, qui finit par entrer en concurrence avec l'autre source de la légitimité principale, évidemment dominante tout au long du Moyen-Âge, mais ça commence à s'estomper à la Renaissance, qui est la religion, d'où Villers-Cotterêts au XVIe siècle, au XVIIe l'Académie française, et au XVIIIe la première loi de la République qui concerne la langue.
Le latin était aux Français de l'époque ce que l'anglais est aujourd'hui à notre langue. C'était la langue vraiment qui concurrençait l'identité nationale ?
Oui, mutatis mutandis, parce que le latin portait tout de même une civilisation que l'anglais ne porte pas ou ne porte plus. En réalité, on n'a pas affaire à l'anglais, ni même à l'américain, qui pourrait porter la civilisation américaine. On a affaire à une langue extraordinairement dévaluée. On est déjà dans le bas latin, si vous voulez. On est dans le très bas anglais ou le bas américain. Je suis par ailleurs député au Parlement européen. J'ai longtemps en fonction dans un cadre multinational, puisque j'ai eu l'honneur de préparer les discours. Ma fonction était officielle, donc je peux le dire, du secrétaire général de l'ONU à New York. Donc j'ai souvent servi dans des cadres multinationaux et je vous assure que l'anglais qui est utilisé, plus encore d'ailleurs à Bruxelles ou Strasbourg, que je ne l'utilisais à New York, mais c'est une parenthèse, est une langue extraordinairement abâtardie qui finit parce qu'elle est très souple, trop souple. Peut-être manque-t-il là aussi une académie française pour normer la langue, qui finit par être victime d'une sorte de sissiparité générale. C'est-à-dire que lorsque vous avez dans une réunion un Polonais qui répond à un Grec, lequel Grec répond à, je ne sais quoi, un Lituanien ou à un Portugais, ou même dans un cadre onusien, un Chinois qui répond à un Chilien qui répond à un Japonais, je vous prie de croire que le taux de compréhension, s'il n'y a pas de traducteur, est quelquefois extrêmement faible. On a à peu près 10% de compréhension de ce qui s'est dit.
Ce qui signifie donc
ce qui est un grand danger pour la soi-disant langue anglaise, qui n'a plus rien de la langue de Shakespeare,
oui,
bien entendu.
Le combat est commun quasiment entre les défenseurs du français et de l'anglais. Au fond.
Oui, l'anglais est tout aussi menacé que le français. Certainement. Alors, plus même.
Pour revenir justement à notre donnée un peu historique sur la question, le latin était la langue prédominante au moment où François Ier a imposé le français. Est-ce que justement le français a été imposé ? Est-ce que c'était la langue du pouvoir ?
Oui, alors ça, c'est bien le drame aujourd'hui. Parce qu'il est pris dans la langue est prise dans la rébellion générale, enfin elle n'est peut-être pas générale, mais en tout cas elle est répandue, notamment parmi ce qui passe pour les élites, mettons les oligarchies pour être plus précis, contre le patrimoine hérité. Pourquoi ? On dit beaucoup, d'ailleurs, un inspecteur général de l'éducation nationale explique qu'il apprenait à lire lorsqu'il était professeur. Il a transposé la méthode dans les IUFM à ses élèves dans des notices d'aspirateurs. Il demandait aux élèves de demander à leurs parents des notices d'emploi d'aspirateurs ou d'objets électroménagers pour apprendre à lire dans un contexte qui ne soit pas, dit-il, celui de la vieille langue française qui fut avant tout, ne l'oublions pas, dit-il, une langue royale. Comme s'il fallait absolument se débarrasser du patrimoine. Mais ça, d'une certaine façon, le français l'a bien cherché. Parce qu'en effet, et c'est tout à fait l'inverse dans le cas de l'anglais, le français, comme vous dites, a été imposé d'en haut. Certes, bien des peuples se sont flattés, les Savoyards par exemple, avant bien, ou les Valdôtains aujourd'hui, avant bien d'autres peuples, étaient heureux de ce signe d'appartenance, mais enfin il a été imposé dans la majorité des cas pour des raisons politiques. Le résultat, et après quoi il a été très normé par la cour et l'académie, et par une conception très politique, très imbriquée dans la conception unitaire, enfin de l'État unitaire. Et c'est un petit peu ce qui nous revient, pardon de l'expression, à la figure aujourd'hui, la contestation de cet héritage, à la fois politique, ancien, et il faut bien le dire, marqué du sceau de la monarchie, longtemps en tous les cas, vise la langue. Et on le voit très nettement dans l'humeur générale de ce ministère de l'Éducation nationale que je m'amuse par taquinerie à appeler le ministère de l'éradication nationale, car on voit véritablement des témoignages de professeurs qui expliquent carrément qu'ils ont scrupule à enseigner une belle langue, parce que cette belle langue porte la marque de siècles au nid.
En dépit des efforts de Gilles de Robien pour réhabiliter.
En dépit des efforts de Gilles de Robien, mais.
La grammaire, quand même, et la méthode de lecture.
Il est le ministre de l'Éducation nationale. Il y a belle lurette que le ministre de l'Éducation nationale n'est pas seul maître à bord, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le grand vaisseau de la rue de Grenelle, de l'hôtel de Rochechouart. Mais c'est un risque pour aujourd'hui, évidemment. Mais c'est en même temps un avantage. Songeons à l'anglais qui lui est tellement peu normé, qui n'a jamais été une langue politique, une langue venue de l'État, parce que l'État, la monarchie et la cour anglaise ont parlé français pendant très 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 longtemps, n'est-ce pas ? C'est le peuple qui a imposé l'anglais. Bien. Telle enseigne d'ailleurs que les chevaliers, pendant le Moyen-Âge, les chevaliers anglais parlaient plus français que les chevaliers français, pendant toute pendant plusieurs périodes de la guerre de Cent Ans, par exemple. Le côté anglais parlait français davantage que le côté français. Bien, mais le pendant de cette situation, la contrepartie, c'est que, imposé par le peuple, extraordinairement souple quant à ses règles grammaticales, l'anglais ne cesse d'évoluer, et sans doute trop vite. Les romans publiés en Angleterre avant la Première Guerre mondiale ou au XIXe siècle doivent très souvent être retraduits pour être compris des générations nouvelles. Ça, nous n'en sommes pas encore à traduire, ne serait-ce que Chateaubriand, pour que nos enfants puissent le lire.
Ça, c'est un point faible de l'anglais et des langues, évidemment, qui ne sont pas normées.
Exactement. Elles viennent du peuple, elles n'ont aucun caractère normatif, et le résultat est qu'elles se disloquent très vite, surtout quand elles sont parlées par une si large majorité de peuples, soit comme langue de communication internationale, soit même comme langue maternelle.
Vous, dont on sait, Paul-Marie Couteau, que vous êtes particulièrement attaché à la souveraineté, au souverainisme, on sait bien que c'est votre combat. Aucune autre langue n'est autant attachée à la souveraineté que le français, à l'idée même de l'État, de la cohésion nationale que le français.
La France est spécialement marquant parce que, encore une fois, c'est une nation du livre. C'est une nation héritière du livre. Alors du livre avec un L majuscule pendant longtemps, et puis comme nous le disions, des livres. Mais on retrouve la même chose, et peut-être même de façon encore plus nette, dans la résurrection de quelques nations. Je cite l'exemple très émouvant de la langue hongroise, qui a été complètement réinventée au XIXe siècle et qui a accompagné le mouvement d'émancipation, c'est assez, d'ailleurs assez émouvant, de la nation hongroise au XIXe siècle, et notamment la révolution de 1848. Je cite aussi un exemple qui est tout aussi connu, et qui montre que la langue est très malléable finalement, elle est très accessible à une action publique, c'est l'hébreu. L'hébreu n'avait pas tout à fait disparu en tous les cas. Il était réservé à quelques érudits et quelques cléricaux. Et il a été réinventé au début du XXe siècle pour pouvoir être la langue d'une nation. Enfin, réinventé au sens réformé, rénové. Et il est devenu la langue de l'État hébreu, ce qui était absolument impensable 50 ans plus tôt. D'une certaine façon, la terre est moins importante que la langue.
Ce qui prouve que les hommes arrivent à maîtriser le destin d'une langue, peuvent y arriver.
Oui. Évidemment, l'exemple québécois, c'est très frappant. Pour qui, c'est mon cas, a connu le Québec dans les années 70, au tout début de l'application de la loi 101, on était dans un univers parfaitement anglophone. 20 ans plus tard, alors aujourd'hui la situation est plus délicate, peut-être un renversement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, 20 ans plus tard, tout Montréal était, Montréal qui était quand même la métropole la plus américaine du Québec, était entièrement francophone, et nos amis québécois faisaient remarquer qu'on respectait davantage le français à Montréal qu'on ne le faisait à Paris. Et c'était tout à fait vrai.
Donc ce qui signifie qu'en la matière, il n'y a pas une sorte de fatalité qui s'abattrait sur les langues et condamnerait les unes ou les autres au déclin parce que l'air du temps n'est pas en leur faveur.
Non,
c'est-à-dire que si les hommes prennent leur destin en main, ils peuvent maintenir leur univers linguistique.
La langue dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'action politique, qui n'est pas simplement une action d'ordre législatif, mais aussi d'ordre terminologique, par exemple. Et sur ce point aussi, je pense que j'ai plaisir à le lire à l'Académie française. Il est évident qu'une langue se défend d'abord, bien plus que par des oukases, des décrets ou des lois, par sa créativité lexicale. Et l'effort a été un petit peu négligé pendant longtemps. Je regretterais d'ailleurs que l'Académie française persista à se contenter d'enregistrer l'usage et abandonna sa mission normative, qui était celle des lettres patentes de Richelieu, confirmée d'ailleurs par Louis XIV, lorsque fut créée l'Académie française. D'ailleurs, en matière d'enregistrement terminologique, je pense que l'Académie, si elle voulait bien avoir aussi une mission normative, pourrait avantageusement donner plus d'écho aux travaux de terminologie des commissions ministérielles qui sont finalement nécessairement confinées en raison de du cadre même. C'est pas très normal que des ministères créent des mots. Ça serait plutôt la fonction de l'Académie française. Alors, elle peut le faire en liaison, elle doit le faire en liaison avec les commissions ministérielles de terminologie. Lorsque j'étais au commissariat général de la langue française, à ce moment-là, je crois que le secrétaire perpétuel était Maurice Druon, nous avons créé une commission générale de terminologie, et en y associant l'Académie française, je crois qu'il faudrait le faire pour toutes les commissions de terminologie, ne serait-ce que parce que l'Académie française jouit de prestige et où on ne peut pas faire aimer les mots à défaut de les imposer, en tous les cas les faire connaître sans prestige, sans une autorité, sans une légitimité. Et ça, il est évident que nul ne l'a aussi, n'a de légitimité aussi établie en la matière et de prestige, je crois que le mot prestige convient encore mieux, que l'Académie française.
On y revient dans un instant, Paul-Marie Couteau.
Partager le savoir, c'est la découverte avec nos journalistes de la présence de la langue française dans le monde. Avec Christa Leuc, vous rencontrez les directeurs des Alliances françaises. Avec Marianne Durand-Lacaze, vous vivez l'expérience et l'engagement des professeurs de français à l'étranger. Avec Françoise Thibault, vous visitez les universités du monde. Partagez le savoir en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Paul-Marie Couteau, Être et parler français aux éditions Perrin. On reviendra d'ailleurs sur cette notion être, être le verbe, et puis l'être aussi, la constitution de l'être en tant que tel pour la langue. On évoquait à l'instant, alors c'est peut-être un petit peu un aspect technique de la question, le rôle de l'Académie française dans la création des mots. Il existe aujourd'hui une commission générale de terminologie et de néologie qui effectivement reçoit les mots de 18 commissions, je crois, ministérielles, mais l'Académie a quand même un rôle de veto. Elle peut accepter ou refuser un mot qui est proposé, un néologisme par exemple. Donc c'est
oui,
quand même un rôle décisionnaire.
Oui, de toute façon, elle a un veto de fait. Parce que si l'Académie, je répète, avec son prestige, s'oppose à un mot, il a peu de chances de passer dans le vocabulaire courant. C'est déjà une grande difficulté pour un mot créé dans une commission ministérielle de terminologie d'être connu du grand public. On a de beaux succès. Je parle le mot baladeur, par exemple. J'ai assisté à la naissance du mot baladeur, c'est assez excitant.
Ah oui. Et comment ça s'est passé alors? Le mot était proposé par quelqu'un.
Le mot était proposé et tout le monde l'a trouvé charmant. On a discuté simplement pendant plus d'une demi-heure, ou trois quarts d'heure, pour savoir si on mettait deux L ou un seul L à baladeur. Voilà. Il est passé assez vite, mais il y a bien d'autres exemples où les logiciels à la place du vieux software qui sont assez réconfortants, parce que ça passe tout de même. Ce sont des mots qui passent. Cela étant, beaucoup meurent. On a la plus grande peine d'ailleurs à faire passer le mot courriel. Alors, on a des difficultés, autre difficulté de la tâche, parce que les Québécois disent mail, M-E-L, et le courriel français ne s'impose pas vraiment. Là, il faut qu'une autorité tranche. Alors, on peut rêver, je risque de déplaire beaucoup en disant cela, mais l'Académie française pourrait aussi avoir un rôle de coordination internationale, non seulement de coordination entre les commissions de terminologie, mais aussi internationale, car il faut veiller à faire en sorte que la création lexicale assez riche au Québec, mais aussi en Belgique, par exemple, ou en Suisse, ne divergent pas trop, que les Français ne divergent pas trop, par opposition justement aux Anglais. Alors les Anglais, maintenant, il faut, ou les Américains, ou le globiche qui n'a plus de normes que par Internet. En réalité, l'Américain est normé, sauvé in extremis, pour l'instant en tous les cas, par Internet, qui donne de moins une norme. Mais je crois que le Français ne peut pas se passer. Et encore une fois, je ne vois pas d'autre institution que l'Académie française d'une coordination internationale de la création lexicale. Oui.
Mais c'est-à-dire que l'Académie devrait, pour être concret, l'Académie devrait avoir un rôle public, beaucoup plus
manifesté. D'abord, il faut qu'elle décide de revenir à son rôle normatif, qu'elle ne se borne pas à enregistrer l'évolution du langage, car toute évolution du langage n'est pas nécessairement féconde. Et ce que font aussi les dictionnaires privés, si on peut dire. Mais aussi, elle doit... À mon avis, elle devrait être dotée de bien plus de services de terminologie qu'elle n'en a. Bien entendu, la commission du dictionnaire est souvent critiquée pour sa lenteur, mais d'abord, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire à l'emporte-pièce. Encore qu'assez souvent, il faille agir dans l'urgence, parce que sinon, le mot étranger, indésirable,
il faut être actif.
Le mot américain s'impose, après, il est trop tard pour faire changer les habitudes. Donc, la lenteur est quelquefois bonne et est souvent néfaste. Mais pour cela, il faudrait que l'Académie française fût dotée d'un véritable service de terminologie avec des terminologues. Et ça, je pense que ça peut se faire par accord assez simple entre l'État et l'Académie, qui est un service public très, très hybride, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, son statut convient tout à fait à sa mission, à mon avis. Il ne faut pas qu'elle soit davantage dans les mailles des services publics de l'État.
Alors, Paul-Marie Couteau, j'aimerais aussi que l'on parle, alors, puisque j'en ai parlé justement sur ce mot « être », et par les Français. On évoquait le côté un peu historique tout à l'heure. Est-ce qu'on n'existe pas contre les autres une langue ? Le français s'est-il affirmé contre d'autres langues ? Le latin ?
Beaucoup, oui. Contre
en particulier.
Contre le latin progressivement au long du Moyen-Âge et puis au XVIe siècle, encore un peu au XVIIe d'ailleurs, contre l'italien. Car l'anglais de l'époque, au XVIe siècle, là pour le coup, c'était plutôt l'italien. Les efforts ont été menés de façon très intelligente par des traducteurs, d'une certaine façon. C'est en traduisant que l'on a créé des mots. Le rôle des traducteurs dans la langue est magnifique et sans doute décisif. Nous avons des traducteurs qui ont, comme Amiot, enfin, et puis tout le travail de la Pléiade, qui ont très certainement sauvé le français, enfin, il n'était pas en perdition, mais qui ont préservé à tout le moins la vitalité du français contre l'italien. Et évidemment, aujourd'hui, ce rôle, c'est joué par, je ne sais comment appeler, l'anglais, l'anglo-américain, l'américain, le globiche, le mot globiche, finalement, convient tout aussi bien. L'indispensable défi pour que nous ayons soin et souci de notre langue.
Sauf qu'il n'y a plus de traducteur, là.
Voilà, il faut faire un travail de traduction, c'est-à-dire de transposition des mots, d'adaptation, d'acclimatation des mots. Quelquefois, ça se fait spontanément. Je rappelle que paquebot vient de l'anglais packet boat, ou que redingote vient de l'anglais reading coat. Enfin, il faut évidemment une instance pour traduire, pour adapter le mot. Ça ne veut pas dire nécessairement le créer toute pièce. On peut très bien utiliser l'apport extérieur, mais il faut normer et adapter le mot. Et puis, il faut développer, alors ça, c'est tout à fait indispensable, une politique de la traduction. Il n'est pas normal, par exemple, alors ça c'est un exemple assez caricatural, qu'il n'y ait aucun service de traduction dans les services de l'État, service central. Là j'en viens à un autre aspect.
Aucun service de traduction ?
Non, un exemple, les fonctionnaires français sont de plus en plus souvent amenés à travailler en américain, comment faut-il dire, parce que les fonctions de l'État sont de plus en plus mêlées à la Commission européenne, laquelle envoie presque exclusivement désormais des documents, et quelquefois des documents considérables. Hein,
En anglais.
Oui, en américain. Et j'ai l'exemple d'un de mes collègues, camarade de promotion de l'ENA, qui me dit, moi j'ai jamais appris l'anglais, je ne peux pas travailler en anglais. J'ai besoin de faire traduire. Il n'en a aucunement les moyens. Et quand la position française doit être en 3 jours, si vous voulez, donnée et renvoyée à Bruxelles, bien entendu aussi en anglais, on est bien incapable de... Il faut trouver le fonctionnaire qui sait parler anglais, qui n'est pas nécessairement celui qui connaît le dossier. Enfin, il n'est pas tout à fait normal que l'État, le gouvernement français accepte de travailler avec la Commission européenne uniquement en anglais. Mais c'est ainsi. À tout le moins, ayons des services de traduction. Et développons, car ça ne l'est pas suffisamment, la traduction dans le cadre européen aussi. Moi, en tant que député européen, je suis stupéfait de voir travailler en anglais de plus en plus souvent. Et j'ai vécu aux États-Unis, pour moi, le problème est mince, mais pour beaucoup de mes collègues, qui n'ont tout de même pas été élus sur un test d'anglais, n'est-ce pas, à moins qu'il faille supprimer l'élection et faire passer un examen d'anglais. Participer à un débat devient impossible quand le débat est dépourvu de traducteur. Or, je répète, dès que la matière est technique ou dès qu'on travaille dans l'urgence, les textes ne sont pas traduits en français ou les cabines de traducteurs sont vides.
Et ça relève d'une volonté délibérée.
Oui, ça je dois dire que nos amis anglais sont certains de tenir le bon bout, si on peut dire, et d'imposer leur langue, ce qui est un avantage inouï pour celui qui parle sa langue. Vous savez, il est en nette position de supériorité sur celui qui ne la parle pas ou qui ne la parle qu'à titre de langue seconde. Nelly Kinnock, un commissaire européen qui a été chargé de la question linguistique, a réussi à, comme on dit, externaliser, c'est-à-dire à confier à des sociétés non publiques des travaux de traduction pour les institutions européennes, notamment le Parlement européen. Il a évidemment choisi le British Council. Et de ce point de vue-là, l'avantage est énorme. Les Anglais ont un avantage énorme au Parlement européen, dès que la conversation est technique, sur tous les autres. Quand bien même parleraient-ils anglais, ce qui n'est même pas le cas de tous.
Et ceux qui, bien sûr, viennent du monde francophone, sont regardés, ceux qui veulent défendre quelque peu la place du français, ce que normalement les statuts européens
très mal vus
reconnaissent, sont mal vus. Enfin,
oui, alors je raconte une anecdote dans ce fameux mon ouvrage. La Roumanie a tenté de mener les négociations d'adhésion préalables à son adhésion de 2004 en français. Et le Premier ministre d'alors, Nastase, a même tempêté pour que les négociations se fissent en français. Mais la commission est restée inflexible, ça sera en anglais ou bien on diffère toute négociation d'adhésion. Et finalement, même un pays francophone comme la Roumanie a dû plier.
Sans autre voie de recours, sans que des pays...
Ah, mais il n'y a pas de voie de recours dans les circonstances.
Sans que la France ne s'en plaigne.
Ben, la France se plaint beaucoup, mais j'en ai parlé à des diplomates français, de la y compris l'ambassade de la représentation permanente. On répond invariablement que tant que les Français venant de Paris, à compter de l'instant où ils mettent le pied dans un Thalys, considèrent que, y compris des hauts responsables français, n'est-ce pas, considèrent qu'il vaut mieux tenter de parler anglais, même mal, et quelquefois très mal, ou que des députés européens parleront en anglais, quand bien même ont-ils cette fois des traducteurs à leur disposition, les autorités françaises sont bien malvenues de se plaindre. C'est un problème que nous avons avec nous-mêmes. C'est peut-être une des figures les plus cruelles de ce que l'on appelle couramment désormais, parce que c'est le point est prégnant, la haine de soi, ou la déprise de soi. Les Français imaginent se fuir eux-mêmes en utilisant l'anglais ou l'américain à tout bout de champ. À Bruxelles, j'en ai, et même hélas à Strasbourg, quand nous y allons encore, j'en ai des témoignages accablants et répétés.
C'est-à-dire que les représentants français, alors on le sait surtout dans le privé en particulier, puisque les grosses boîtes multinationales, certaines du moins, imposent l'anglais systématiquement, mais dans les représentations politiques comme au Parlement européen, on pourrait imaginer que la langue étant un outil stratégique, on y tienne d'autant plus. On se souvient de Jacques Chirac qui était sorti le jour où Ernest-Antoine Salière s'était exprimé en anglais.
Oui, il avait fait une sortie, comme on dit, puis il était sorti. Le président de la République avait été vif ce jour-là. Mais
c'est quand même un signe.
Oui, c'est un signe, simplement... Il y a tout de même un petit hiatus.
Il n'y a pas que des démissionnaires.
Monsieur Sellière n'est pas un fonctionnaire français. Et si le président de la République voulait vraiment agir pour qu'on parle davantage français à Bruxelles, qu'il commence par imposer l'usage du français à ses propres fonctionnaires. Ce qui n'est pas le cas de monsieur Sellière. Et j'ai trouvé ça un peu incongru. Je ne veux pas défendre le baron Sellière qui, sur quoi, avait fait une erreur parce qu'il avait tenté de répondre à l'algarade du président de la République en s'expliquant et en théorisant même le fait qu'il fallait désormais parler anglais. Alors, le président de la République en a fait toute une affaire, il n'a pas eu tort. Mais enfin, on pourrait commencer aussi à faire en sorte que des fonctionnaires français, des responsables français, parlent français à tout le moins à Bruxelles ou Strasbourg.
Il n'y a pas d'impulsion là au plus haut niveau de l'État pour dire, voilà, ceux qui représentent la France à Strasbourg,
à Bruxelles, parlent français. Comme souvent d'ailleurs dans l'administration, il n'y a pas de sanctions. Donc, il peut y avoir des injonctions, mais elles ne sont pas suivies d'effet. Je crois qu'il faudrait être beaucoup plus sévère.
Paul-Marie Couteau, on marque une seconde pause. Éclairage avec Paul-Marie Couteau, député européen, qui dirige l'indépendance mensuelle, avec les cahiers de l'indépendance également, on peut souligner ces cahiers de réflexion. Vous êtes député européen, donc on parlait d'être et parler français, des vicissitudes du français à l'échelle de l'Union européenne. Sur le mot « être » et parler français, peut-être un retour avant de revenir à des considérations peut-être un petit peu plus contemporaines, enfin je dirais du moins
de
notre environnement.
Je tiens beaucoup au sens de ce titre, j'espère qu'il apparaît assez clairement. Mais j'ai tenu à ce titre « Être et parler français » parce que je crois que la langue n'est pas d'abord un instrument de communication. Elle est, comme dit Heidegger, phrase que je mets en exergue de mon livre, elle est le siège de l'être. Et je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas trop jouer avec l'idée qu'un pays puisse devenir bilingue ou qu'on puisse parler de façon équivalente de langues. Car nous sommes constitués dès nos premiers âges, on pourrait dire même avant nos premiers jours, par une langue. Je crois qu'un enfant à naître dans le ventre de sa mère n'a pas de meilleur lien avec le monde extérieur que les mots qu'il entend dans le ventre de sa mère. Et peut-être qu'il entend répondre. Or, nous n'avons pas de mère, d'où le vocable d'ailleurs extrêmement savoureux de langue maternelle, n'est-ce pas ? Ce sont les premiers mots qu'il entend, qui le relient au monde, les mots de sa mère, précisément. C'est très frappant, d'ailleurs, je m'amuse à citer une étude, je crois, scandinave, qui montre que les premiers mots varient d'une civilisation à l'autre. Et en quoi ils nous constituent différents les uns des autres. Les premiers mots dans la civilisation japonaise sont des mots plus poétiques, la lune est belle, regarde la lune, ou beaucoup plus pratiques dans le monde scandinave. Beaucoup plus épicurien en français. Les premiers mots, c'est bon ou c'est doux. Une étude sur les premiers mots, à l'époque de l'écolalie, c'est-à-dire tout à fait les premiers balbutiements de l'enfant, montre qu'ils n'entendent pas la même chose. Et il y a un déterminisme. Et nous sommes véritablement, comme dit Heidegger, dans le siège de l'être. Et évidemment, toutes les langues portent une certaine... J'ai scrupule à reprendre ce truisme, enfin, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Toutes les langues portent une manière d'être au monde, une manière de dire le monde, et notamment d'ailleurs le vocabulaire politique. Pour en revenir à mon expérience de député européen, alors là on quitte les premiers pas de l'enfance, mais c'est aussi un aspect de l'être. Je me rends compte que bien des mots français sont absolument impossibles à traduire dans des langues fussent-elles proches, comme l'anglais ou l'anglo-américain ou l'allemand.
Et lesquels par exemple ?
Bah, écoutez, un jour il m'est arrivé une mésaventure que je narre par le menu dans mon livre. J'étais invité à l'Institut français de Brême et j'ai fait une conférence très politique, c'était à l'occasion du 30e anniversaire de mai 68. J'ai éprouvé le besoin, par exemple, à un moment, de dire que je me définissais comme républicain. Murmure divers dans la salle, parce que le traducteur avait dit républicaneur. Républicaneur, n'est-ce pas, ça signifie extrême droite en Allemagne. C'est presque un nostalgique du nazisme. Si je dis nation, en allemand, toujours, je suis très mal compris, parce que nation est très dépréciatif. Si je dis empire, ce qui a un sens dépréciatif en français, je suis traduit Reich, ce qui est beaucoup moins dépréciatif en allemand. Bref, les catégories sémantiques ne se recoupent pas du tout. Même avec l'anglais d'ailleurs. Quand je dis liberté, je ne dis pas liberty. Et je ne dis pas non plus freedom. C'est pas la même chose. En France, la liberté, elle est acquise par l'intervention publique, par le bien commun. Elle est garantie et même conquise par une action de l'État. Alors que le liberty anglais dit exactement l'inverse. C'est la non-intervention de l'État qui détermine la liberté. Par conséquent, je répète, nous sommes vraiment dans notre être propre quand nous parlons notre langue, et la transposition, quels que soient les rêves des mondialistes, n'est-ce pas, la transposition n'est pas possible.
Mais ça veut dire qu'on dépend presque de sa langue complètement.
Et nous,
dépend, à notre insu.
Oui, à notre insu. Pourquoi à notre insu ? Non, il faut savoir que notre langue nous permet de comprendre au sens précis du terme, c'est-à-dire de prendre ensemble le monde, de le décrire, de le découper, donc de le comprendre selon des voies qui ne sont pas celles de nos voisins. Il y a une part d'imperméabilité entre les civilisations, qu'on le veuille ou non. En tous les cas, entre les langues.
On parlait de l'italien tout à l'heure, du bas-latin pour les langues qui ont été en rivalité. Est-ce que l'allemand, puisqu'on cite toujours l'Allemagne comme rivale principale de la France, du moins au cours des siècles derniers, est-ce que l'allemand a essayé de concurrencer le français ? Est-ce qu'il y a eu une bataille linguistique entre les deux langues ?
Alors, à l'échelle européenne, vous voulez dire, j'imagine,
enfin, oui,
dans le cadre des institutions européennes, ne mélangeons pas. Oui, il y a une concurrence et les Allemands sont un peu envieux de la place de brillant second, de moins en moins brillant, hélas, du français dans les institutions européennes, ne serait-ce que parce qu'il y a Bruxelles et Strasbourg. Et le concurrence, hein, en effet. Nous avons tout à fait raté ce partenariat. Il faudrait le reprendre, à mon avis. Ce partenariat qui est même, d'ailleurs, aux origines de la langue, qu'on pourrait faire remonter au serment de Strasbourg de 1842, puisque, si bien, j'ouvre une parenthèse, c'est dans un cadre franco-allemand qui a été écrit le premier texte que nous connaissions en langue française, c'est-à-dire les serments de Strasbourg, hein, lorsque les deux fils puinés de Louis, le fils de Charlemagne, entendent faire alliance contre leur aîné Lothaire, chacun parlant la langue de l'autre. C'est-à-dire que les serments de Strasbourg sont prononcés par Louis le germanique en français, c'est notre premier texte en français, et la réponse de Charles, roi de la Francia Occidentalis, est en langue tudesque, enfin, qui est pratiquement l'allemand d'aujourd'hui. Bien, et donc, le partenariat franco-allemand serait naturel, mais il ne l'est pas. Il faudrait, à mon avis, y mettre un peu de politique, ce qu'avait tenté de faire, souvenez-vous, le général de Gaulle avec Adenauer, en faisant en sorte qu'à tout le moins, et je crois qu'il faut revenir absolument à ce point, si on veut véritablement faire une Europe qui soit une Europe européenne, non pas américaine. N'est-ce pas ?
Parce que le français est de moins en moins parlé en Allemagne,
oui, faire en sorte que les Allemands parlent français et que les Français réapprennent l'allemand. Or, les proportions sont dérisoires. Résultat, lorsque nous parlons avec des Allemands, nous parlons en américain. Mais ce n'est pas tellement l'Europe que nous souhaitions, apparemment.
Paul-Marie Couteau, on associe toujours, alors pour la France c'est flagrant, le rayonnement du français au rayonnement politique de la France, l'un allant avec l'autre, donc déclin politique, déclin de la langue. L'Allemagne à l'inverse, ce n'est pas du tout le cas. L'allemand ne rayonne pas, la langue allemande ne rayonne pas vraiment.
Elle rayonne en Europe centrale.
Oui, en Europe centrale, dans son bassin.
D'ailleurs, je pense que le partenariat est tout trouvé, à mon avis.
L'Allemagne est une puissance mondiale sans que sa langue soit une puissance mondiale, sans que sa langue soit réellement mondiale.
C'est le cas aussi du chinois ou du russe. La France a une complexion particulière. Elle ne se comprend que comme une participation au monde. Par conséquent, il faut que le monde la renvoie perpétuellement à elle-même. Elle n'est pas une évidence de nature, la France, hein, comme la Grande-Bretagne est une île ou l'Allemagne se conçoit comme d'abord une race. Elle est une construction politique et littéraire. Donc il faut toujours qu'elle se prouve à elle-même qu'elle existe et que le monde lui renvoie l'image d'elle-même. C'est tout l'enjeu d'ailleurs, en effet, de la francophonie. Mais pour en revenir au cadre européen, je voudrais insister sur ce point. Je crois qu'on pourrait arriver à rationaliser le multilinguisme européen et à faire en sorte tout de même que, comme de même qu'à l'ONU, il y a deux langues de travail, le français et l'anglais. Ce qui fait que je travaille beaucoup plus en français à New York que je ne le fais à Bruxelles ou Strasbourg. C'est même assez paradoxal et qui peut chagriner tout de même. Il faudrait aussi, dans le cadre européen, un jour ou l'autre, poser la question linguistique et adopter deux ou trois langues de travail. Après avoir beaucoup examiné les différentes hypothèses possibles, faut-il inclure d'autres langues latines ou pas, je crois que le plus raisonnable serait de déterminer trois langues, l'allemand pour son rayonnement continental, qui est vérifié, y compris d'ailleurs dans plusieurs pays scandinaves, en Finlande ou en Suède, on parle souvent allemand, et pour la passade atlantique, évidemment, l'anglais ou l'américain. Puis son poids dans le monde fait que l'anglais a tout à fait sa place. Et puis pour le monde latin, le français. Je crois qu'organiser un trilinguisme peut redonner quelques couleurs européennes, proprement européennes, à notre construction européenne qui souffre tant d'une telle crise d'identité. Enfin.
Certaines voix se sont même élevées pour que ce soit le français qui soit la langue de l'Europe.
Oui, alors ça c'est exagérément optimiste, si je puis dire. Ça je crois que nous n'y arriverons pas. Je sais que des initiatives ont été prises, notamment par Maurice Druon. Elles sont excellentes, elles témoignent malgré tout d'une volonté de défendre notre langue. Mais c'est ce genre d'initiative qui dresse délibérément contre nous les Allemands spécialement. Je crois qu'on aurait mis les Allemands dans la partie, on s'en sortirait mieux. Bon, ça c'est une question de poids et de mesure. Le projet de Maurice Druon consiste à faire en sorte que le français soit la langue de référence juridique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une incertitude sur un texte, on se réfère à la version française. Mais je crois que notre poids et même la volonté politique mise au service de cette ambition ne nous permettront pas d'y parvenir.
Paul-Marie Couteau, vous êtes avec nous pour évoquer Être et parler français aux éditions Perrin. On se retrouve juste dans un instant.
Qui porte l'habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert ?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert ?
Le portrait ?
Le parcours ?
La rencontre ?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque ?
Sur Canal Académie.
Être et parler français aux éditions Perrin avec Paul-Marie Couteau, qui dirige l'Indépendance, député européen, avec nous pour évoquer la langue française sous l'aspect justement de l'être, la constitution de l'être. On existe à travers sa langue, cette langue qui nous possède plus que nous la possédons finalement, non ? Ce serait résigné, ça.
Ah, mais si nous possédons bien notre langue, nous sommes quittes avec elle. C'est-à-dire que si nous la parlons, et si nous la parlons bien, je crois que nous la maîtrisons autant qu'elle nous maîtrise, de certaine façon. Et c'est peut-être ça, après tout, la véritable liberté, ou la liberté du créateur. C'est-à-dire de maîtriser suffisamment son instrument pour qu'il soit... pour qu'il permette de créer, tout simplement.
Vous avez évoqué tout à l'heure la haine de soi.
Oui.
en ça, rapport avec les institutions européennes, ouais. Le fait que les Français ne défendent pas
ou l'éducation nationale.
Ou de l'éducation nationale, je voulais y venir précisément. Ouais. La question de l'école est essentielle là, sur cette question.
Ouais.
Si l'école ne suit pas,
je regrette tout à fait que le ministère de l'Éducation nationale, qui pourrait employer ses moyens plus utilement à faire en sorte que l'acquisition de la langue, et même de la langue classique, en tous les cas d'une bonne langue, soit assurée à tous les enfants de France, avant même qu'ils n'entrent en sixième, et ça n'est pas le cas, puisqu'on sait qu'entre 25 et 30% d'élèves qui sont pourtant admis en collège en sixième ne maîtrisent pas du tout la langue et sont sinon analphabètes, du moins illettrés, c'est-à-dire ne peuvent pas lire couramment un texte et achoppent, et donc leurs études deviennent extraordinairement aléatoires. Voilà un point essentiel. Bien plus important à mon avis que les efforts faits par le ministère pour imposer l'acquisition pudiquement dite d'une langue étrangère, c'est toujours l'américain, dès la maternelle. Alors là, pour le coup, justement, en maternelle, il y a une concurrence avec la langue maternelle.
Ça, vous êtes opposé.
Et on glisserait vers la diglossie. Absolument, je suis tout à fait opposé. Car je crois que l'on peut acquérir, mis à part, évidemment, on cite toujours des exemples de grands personnages parce qu'ils ont vécu dans des milieux particuliers. Enfin, c'est pas le cas de 99,9% de la population française qui ne peuvent pas apprendre simultanément deux langues. Ça n'est pas possible. On peut apprendre une langue à partir de sa propre langue. Je répète, de sa langue maternelle, de celle qui dit le monde et qui permet, à partir de là, d'ailleurs toujours très imparfaite, qui permet d'apprendre des langues secondes. On parle bien d'ailleurs de la première langue et de la seconde langue dans le cursus scolaire, mais sous-entendu langue étrangère. Car quand on apprend une première langue, par exemple l'anglais, c'est pas notre première langue, c'est notre deuxième langue. On voit bien qu'il y a un statut à part réservé à la langue maternelle. Et là, une sorte de modernisme, et encore je ne suis pas cruel quand je parle de modernisme, on peut utiliser d'autres mots, fait des ravages dans le ministère, donc de l'éradication nationale, précisément à cause de notre haine de soi, et parce que la langue porte tout un héritage avec lequel nous ne sommes plus à l'aise. J'espère que nous redécouvrirons à travers la langue notre héritage. Mais pour l'instant, c'est une façon de le liquider que de passer carrément à une langue étrangère dès les premières années. Et alors ça, on n'est pas loin d'un certain totalitarisme. Vous savez, tous les régimes totalitaires s'en sont pris aux enfants et ont voulu éradiquer les racines du vieux monde, du monde ancien, en essayant de faire en sorte qu'ils n'accèdent pas au patrimoine classique.
Mais alors, c'est là que je ne vous comprends pas d'un certain point de vue, puisque on voit bien, si on regarde l'histoire du français, que de l'édit de Villers-Cotterêts jusqu'à Jules Ferry, la langue fut un élément fédérateur qui a constitué l'État, la nation, par-delà la Révolution. Donc les deux France, celle d'avant et celle d'après, celle qui se rattache à des valeurs d'ancien régime, celle qui se rattache à des valeurs républicaines, sont unies dans la défense de la langue.
Oui, vous avez tout à fait raison. La césure n'est pas du tout entre, sur la question de la langue comme sur tant d'autres d'ailleurs, entre l'avant et l'après-révolution. La césure est beaucoup plus récente. Entre l'acceptation de l'entier héritage républicain et monarchique, si vous voulez, et
il y a un rejet même refus. De la République dans
oui. Mais la troisième République a été extraordinairement classique. C'est vraiment
la faute d'orthographe était un péché laïque.
Oui, c'était un péché laïque. Voilà, on retrouve la concurrence entre les deux sacralités, la langue et la foi. Mais la césure se fait, je crois, tout au long du XXe siècle, entre 40 et 68, si vous voulez. Enfin, à partir de 1940, avec une accélération après 1968. C'est un refus du patrimoine qui, encore une fois, vise aussi bien le monde ancien, c'est-à-dire pré-révolutionnaire que républicain. D'ailleurs, sommes-nous aujourd'hui véritablement dans un cadre républicain, j'en doute. Finalement, la langue ne fait que suivre un mouvement général de désamour. Roland Barthes disait, il n'y a pas de crise de la langue, il y a une crise de l'amour de la langue. J'ajouterais, il y a une crise de l'amour de la France, dont la langue est la victime.
Ce qui nous amène bien sûr à voir s'il y a des signes de sursaut. Est-ce qu'il y a des signes de sursaut ? Vous avez cité tout à l'heure la Hongrie.
Il y en a beaucoup, oui.
Et le monde juif avec l'hébreu, qui à partir de petits éléments, de petites troupes ont réussi à redresser une situation qui pouvait paraître désespérée.
Oui, il y en a beaucoup. Citons-en quelques-uns. Le plus frappant est la réaction au sein même du corps professoral. Des professeurs se sont cachés pour prononcer ce débat, si important d'ailleurs, de méthode d'acquisition de lecture. Se sont cachés pour garder l'ancienne méthode syllabique contre la méthode globale dont ils voyaient bien les ravages. Et certains professeurs racontent des aventures extraordinaires, demandant à leurs élèves d'envelopper de papier Kraft leurs livres anciens pour que les d'inspecteurs, si d'aventure des inspecteurs déboulés dans les classes, ne les voient point. Et il y a une résistance des professeurs, des collectifs comme Sauvons les Lettres, alors qu'ils s'appliquent cette fois pas simplement à l'acquisition de la lecture, mais à l'enseignement des lettres classiques. Il faut voir par exemple, il faudrait lire, enfin j'en cite des passages ahurissants dans mon livre, des méthodes qui sont conseillées aux professeurs pour apprendre nos classiques, en donnant une place équivalente à Guy Béard et à Pierre Corneille, pour citer un auteur que nous louons cette année. Bien des professeurs classiques, alors là, vraiment, sont les premiers bataillons de la résistance, réagissent. Les parents aussi, quelquefois, réagissent même en créant leur propre école, car il y a un mouvement, ça, on l'ignore pas, de création d'écoles qui sont même sans contrat avec l'État, parce que certains parents sont horrifiés de voir leurs gamins ne pas savoir parler français ou écrire la langue française convenablement à 10 ou 12 ans.
Il existe une association, en effet, Créer son école.
Créer son école, il y en a même plusieurs, je crois. Et ce mouvement dissident est extraordinairement significatif, inquiétant et exaltant à la fois. Inquiétant parce qu'il signale une faillite totale du système d'apprentissage, et d'abord sur la question de la langue. Et puis, il y a évidemment, petit à petit, la classe politique qui prend conscience du problème, le retour à la grammaire, voulu par l'actuel ministre de l'Éducation nationale, en est un signe. Et avouerai-je aussi que j'ai créé, il y a quelque temps, une association pour la défense du subjonctif imparfait. Je l'ai fait sous forme de boutade. Ça, c'est les cahiers de l'indépendance que vous aviez la gentillesse de citer à l'instant, qui ont pris cette initiative. Je l'ai fait un peu sous forme de boutade, parce que je pense que le subjonctif est spécialement français. Enfin, je crois qu'il a une signification tout à fait particulière. Et puis, dans le monde très unidimensionnel dans lequel nous sommes, le subjonctif, qui est la langue du rêve, du doute, de l'hypothèse, a une signification, à mon avis, intéressante. Eh bien, je suis stupéfait par le nombre d'adhésions que j'ai eues. Donc, regardez, par exemple, la bataille de l'orthographe. Mais il faut sauver le subjonctif imparfait, parce que c'est la pointe à serrer, si vous voulez. C'est la pointe la plus avancée de la difficulté de la langue, mais difficulté qui est pleine de richesse et de fertilité.
Et c'est toute la subtilité.
Souvenez-vous aussi de la fameuse bataille de l'orthographe, quand un misérable Premier ministre, je n'ose pas citer, pourquoi pas, Michel Rocard, a voulu en 1990 réformer l'orthographe. Il y a eu des bataillons et des bataillons de défenseurs de la langue française qui sont mobilisés. Il y a eu des manifestations. D'ailleurs, l'une d'elles est partie de l'Académie française, je m'en souviens, pour lutter contre cette réforme de l'orthographe. Des associations ad hoc se sont créées, finalement. Qui a gagné, d'après vous? Eh bien, ce sont les classiques. C'est-à-dire que le Premier ministre, tout Premier ministre qu'il fut, recula.
On ne touche pas à une langue impunément.
Ben, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas contre la volonté du peuple, non.
Sans prendre garde à l'étymologie. Parce que les mots ont un visage aussi. Alors, on ne peut pas changer tous les mots, les trafiquer, les...
Ah, on peut les trafiquer, mais il faut que ce soit un mouvement qui ait sa légitimité. La simplification du vocabulaire, qui était la réforme Rocard de 90, la simplification de l'orthographe, était très mal perçue des Français, car finalement les Français restent un peuple extraordinairement puriste. Et pourquoi ? Parce que précisément l'être tient la langue. Et donc on sait très bien qu'on touche à l'être propre, à la singularité propre, à la signification de l'être français quand on tripatouille la langue. Alors la défendre, oui. Créer des mots nouveaux, oui, dans un but de défense et de rayonnement, oui. Défendre la francophonie, oui, ces causes sont populaires. Mais parce que ce sont des causes qui finalement exaltent l'être français. Réduire la langue, la simplifier, c'est autant d'atteintes que les Français sentent comme des atteintes à leur être profond.
Quand je disais trafiquer, c'est qu'il y avait une arrière-pensée idéologique dans tout ça. On voulait en quelque sorte...
Oui, idéologique et commerçante. Ça ne consonne que trop avec un monde bouffé par la logique de la marchandise. Et la langue est peut-être ce qui s'oppose le plus à cette unidimensionnalité du monde contemporain. C'est d'ailleurs le succès et tout l'enjeu de la francophonie. Au fond, pourquoi le français se porte, sauf en France, allais-je dire, en manière de provocation, assez bien dans le monde, mal en Europe, encore plus mal en France, mais plus on s'éloigne de ce cœur, mieux il se porte. On crée une université à Abu Dhabi entièrement en français au mois d'octobre dernier, avec l'aide de la Sorbonne. À Shanghai, on ouvre des écoles de français. Il faut dire que les Chinois sont très intéressés par le français parce qu'ils convoitent le marché francophone, enfin africain. Mais quelles que soient les raisons, et aussi nord-africain d'ailleurs, quelles que soient les raisons, il y a un engouement pour la langue. Il y a une raison qui surplombe toutes les autres, c'est que c'est un signe de différence. Boutros Ghali, que je m'honore d'avoir servi longtemps quand il était secrétaire général de l'ONU, aimé, adoré répéter cette phrase, le français est la langue du non-alignement. Et ça a un sens très particulier. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que l'entreprise francophone n'est pas si mal partie. Et les sommets francophones ont leur signification. Je rappellerai simplement, le thème de l'exception culturelle a été formé pour la première fois avant d'être repris très largement, notamment dans le cadre européen, lors du sommet francophone de l'île Maurice de 93. C'est l'assise que la communauté francophone a donnée au thème de l'exception culturelle qui lui a permis de rayonner et finalement d'obtenir quelques succès maigres, et là c'est très fragile à l'échelle européenne. Et en 2003, c'est à Beyrouth, lors du sommet francophone de Beyrouth d'octobre 2003, que le président de la République française, Jacques Chirac, a pour la première fois sermonné les Américains et les a mis en garde contre les risques d'aventure en Irak. Et si ensuite la France a pu dire assez hautement, il faut bien le dire, non aux États-Unis quelques mois plus tard lors de l'invasion irakienne, c'est aussi parce qu'elle savait pouvoir se fonder sur cette communauté francophone et au fond exalter cette signification qui est celle de la France et qui doit être celle de Français, d'un signe de différence et certains militants diraient un signe de résistance.
Merci beaucoup Paul-Marie Couteau. Être et parler français aux éditions Perrin. Je rappelle que vous êtes député au Parlement européen et que vous dirigez l'Indépendance. À bientôt.
Merci.